réponse. C'est Jean-Luc Pennel qui est sorti en 1983, que beaucoup d'entre vous connaissent, et à qui je laisse la parole.
Merci. Merci beaucoup Michel, merci à vous d'être tous être là, merci pour l'accueil, merci pour les bio-ingénieurs qui sont là souvent, vous ne les trouvez pas souvent à la RBR, mais voilà, ils sont là. C'est avec grand plaisir que je me retrouve ici ce soir. En fait, je ne vais pas vous parler de bio-ingénieurs, je vais vous parler de coaching, et de coaching disons en général. Vous avez vu le titre de la conférence ce soir, je parlais de un peu la mode, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup du coaching maintenant. Ensuite, à travers mon expérience, je vais vous parler un peu des résultats. Je crois qu'il y a pas mal d'ingénieurs ici dans la salle, donc je me dis que ce qui est intéressant, c'est de parler, pas forcément vous dire ce que c'est, les techniques, etc., mais de vous parler de ce qui est des résultats, ce que ça donne, à quoi ça sert le coaching. Et puis après, on terminera par, en quelques mots, je vais expliquer, tiens, si ça vous intéresse, le coaching, comment choisir un coach, comment on peut les trouver et savoir qu'est-ce qui peut orienter le choix d'un coach. Alors, avant tout, le coaching, je vous dis, c'est beaucoup à la mode. On entend beaucoup, j'entendais une humoriste il n'y a pas longtemps qui disait que, mais avant on avait des profs de gym, maintenant on a des coachs sportifs. Avant on avait des titulaires de classe, maintenant on a des coachs scolaires. Avant on avait des dresseurs de chiens, maintenant on a des coachs canins, c'est extraordinaire. Et avant même, qu'on avait des moulinex et les livres de cuisine, maintenant on a des coachs culinaires, c'est magnifique. Coach est mis à toutes les sauces, c'est extraordinaire. En fait, moi, ce que je vais vous parler, c'est surtout du coach professionnel, du coach de suivi des professionnels. Et pourquoi on en parle beaucoup? Parce que c'est quelque chose qui est venu assez récemment. En fait, je reviens en arrière d'abord. Le coaching, en fait, ça date d'il y a très longtemps. Socrate était un des premiers coachs avec la maïeutique. Il posait des questions, il aidait les gens à trouver leurs réponses à travers un questionnement, à trouver des voies à travers le questionnement. Le mot coach, il vient en fait simplement, c'est de l'anglais, de la diligence. Et c'est quoi? C'est l'idée de, je monte dans une diligence au point A et j'arrive au point B. C'est cette idée de coaching, je pars d'un point et j'arrive à un autre. C'est des idées donc qui remontent il y a très longtemps. Mais c'est à la mode, pourquoi? Parce que dans les années 80, à partir des années 80-90, le coach professionnel a vraiment eu un boom. Mais parce que c'est simple, je vous apprends rien, on est dans un monde qui évolue, qui bouge beaucoup. Il y a plein d'informations qui viennent dans tous les sens avec la globalisation, donc ça devient très difficile pour les managers, pour les entrepreneurs, pour les hommes, les femmes dans la vie quotidienne de faire des choix, d'avancer, de faire des choix en général, des choix de vie, des choix professionnels. Et c'est pour ça que le coaching a fait un boom, parce que voilà, le coaching c'est l'accompagnement, c'est accompagner à faire des choix, c'est accompagner à avancer. Il y a eu un boom dans les années 80-90 et ça a très bien marché. Surtout aux États-Unis. Ça, c'est clair que le coaching aux États-Unis, tous les chefs d'entreprise ont leur coach. Ça marche très bien. Il y a même Harvard. J'ai appris récemment qu'Harvard a fait vraiment une section. Je ne sais pas si c'est un master ou quel est le niveau exact, mais c'est sur 5 ans d'études de coaching. Parce qu'il y a des résultats. C'est prouvé. Il y a des études de plus en plus qui le font, qui montrent que le coaching amène des résultats. C'est presque quantifiable. Et surtout au niveau investissement. De plus en plus d'entrepreneurs investissent dans du coaching parce que c'est investir dans le personnel, dans le développement des gens et un retour sur investissement. Je reviendrai après sur les résultats possibles du coaching. Donc ça marche. Ici en Europe, ça marche moins. Je dirais que c'est un problème culturel en fait. J'en discutais il n'y a pas longtemps. C'est facile ici en Europe de dire oui, tiens, j'ai un problème de compétence, eh bien on va faire une formation. Une formation, c'est bien. Oh, une formation, c'est 3 jours, de 8h à 18h, telle heure, avec tel programme. C'est très structuré, c'est très simple. Et on peut après dire, ah voilà, ils ont appris ça, ça, ça. Le consultant aussi, le consultant, il vient avec des données précises. Tiens, il y a ceci, il y a cela, je vais vous apporter, vous rentrez tel problème. Il vient avec une expérience très précise, des données précises. On le prend facilement. Le coaching, c'est plus délicat parce que c'est aller chez quelqu'un et dire « il y a un problème, j'ai un problème de savoir-faire, peut-être de savoir-être, et si je vais voir un coach, ça ira mieux. » Mais c'est difficilement quantifiable. On ne sait pas vraiment vous donner vraiment des chiffres comme ça. Et je sens ça dans la culture européenne, ça passe moins bien, en France encore moins, parce que là, il faut vraiment être classifié, il faut un diplôme des résultats. Et c'est quelque chose qui a du mal à démarrer. Mais on le sent, ça démarre, ça prend de l'ampleur. Donc oui, c'est à la mode, oui, on en parle, mais ça répond, je crois, à un besoin et une attente. Alors, je vous ai parlé résultats, mais je crois que le plus simple pour vous expliquer ce que c'est, ce que le coaching amène comme résultat, c'est de passer un peu à travers mon parcours personnel. Vous le savez, en fait, je suis bio-ingénieur, je suis sorti ici, comme l'a dit Michel, en 83, hein, c'est l'ULB. Et après, j'ai fait une carrière en Afrique, j'ai travaillé au Rwanda, où j'ai rencontré mon épouse, Antoinette. J'ai travaillé pour les Nations Unies, puis on s'est installé au Burundi, j'ai démarré une entreprise de production et d'exportation de plantes ornementales, entreprise qui fonctionne toujours. Et puis, bon, j'ai eu un grave accident en 95, il y a bientôt 20 ans. Et puis bon, je suis revenu ici, on est reparti au Burundi, et puis en 2003, on est revenu s'installer ici pour suivre les études des enfants. Et puis, il fallait se reconvertir, il fallait faire quoi ? Mon épouse s'est reconvertie en pédicure médicale, et moi, bon, j'ai cherché du boulot. J'ai dit, bon, quoi ? Mais quoi, je suis agronome, j'ai jamais travaillé en Belgique, hein, j'ai travaillé en Afrique, je suis handicapé, et je fais quoi avec ça pour trouver du boulot ? Il manquerait plus que ça, je m'appelle Mohamed, et j'avais tous les défauts. Donc, j'ai pas trouvé de boulot. Hein. Et c'était pas évident, c'était une approche très difficile. Et je tournais un peu en rond, et puis j'ai rencontré un certain André Penin, mon frère, qui, je ne sais pas s'il est arrivé, il est là.
Oui, il est arrivé.
Il est arrivé, merci. Et qui m'a dit, mais tu sais, je connais un ingénieur civil, un homme d'affaires qui est coach, il s'appelle un certain Bernard de Cagnet. Il aurait aimé être là, malheureusement, mais il n'est pas là. Donc, vous avez des ingénieurs qui ont été dans le coaching aussi. Et donc, j'ai rencontré, je me dis, ah tiens, rencontrer un homme d'affaires, ça m'intéresse, on ne sait jamais, lui va peut-être me trouver quelque chose. J'ai été le voir, et puis après, on s'est rencontrés, on a parlé, etc. Puis après, je suis revenu, et après deux séances, il m'a dit, mais Jean-Luc, tu es coach. Je dis, ah bon, c'est quoi ce truc ? J'avais aucune idée de ce que c'était. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser, il m'a expliqué, etc. Et en fait, parce que le coaching, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que c'est avant tout une attitude. C'est une façon d'aborder les choses, d'aborder les gens particulières. Et après, il y a des techniques. Et alors après, bon, je ne me sentais pas à l'aise. Je n'allais pas dire je suis coach, sur quelle base. Alors j'ai un peu gratté. J'ai trouvé qu'il y avait une école canadienne. On revient de nouveau à l'Amérique du Nord, qui est vraiment en fond là-dedans. Une école francophone, qui est la plus grande école francophone de coaching au monde, qui faisait des cours par correspondance, donc par Internet. Vous voyez, j'ai un ordinateur, j'ai une synthèse vocale, donc je travaille sur Internet sans problème. Et ils font des animations avec des téléclasses. Donc on prend le téléphone, on est en contact avec des gens comme ça. Bon, j'ai fait le premier cycle qui explique les outils de base du coaching. J'en reviendrai peut-être après là-dessus. Et puis un deuxième cycle qui est dire qu'est-ce qu'on peut faire avec le coaching, les différentes applications. Et après, je me suis senti, en fait, bien. C'est vrai que ça correspondait à ma façon d'aborder les choses et puis de travailler avec l'humain. Je trouvais ça très, très intéressant. Donc j'ai passé les examens, j'ai réussi, j'ai commencé à me lancer dans une carrière de coach professionnel. Ça a tellement bien marché, cette formation, qu'en fait, maintenant, je travaille pour eux. Donc je suis téléanimateur. Là, jeudi soir, je n'ai pas fait la conférence jeudi, parce que jeudi soir je suis au téléphone avec une dizaine de personnes du Canada, de France, comme ça c'est très très gai, et j'anime des téléclasses de coaching sur les techniques, sur qu'est-ce que c'est le coaching. Donc ça m'a ouvert pas mal de portes. Je vais revenir un peu sur ce que ça m'a ouvert. Mais pourquoi est-ce que Bernard m'a dit Jean-Luc, tu es coach? C'est parce qu'en fait j'avais un passé, et là je vais vous montrer une petite vidéo. Je vais pas vous faire un PowerPoint, parce que j'ai lu dans le bouquin que Steve Jobs a dit qu'un bon conférencier n'a pas besoin de PowerPoint. Et ça tombe bien, parce que je ne sais pas travailler sur PowerPoint. Alors, je vais vous montrer un petit clip, j'espère qu'il est bon.
Entrée.
Allez, ça, c'est ma
leadership.
Ça démarre ?
Oui, oui.
Bien.
Il faut attendre.
Bouton basculer. Entrée. Lecteur Windows.
Ça marche ?
C'est le poil à gratter de le syndicaliste de Mao. C'est l'évier, ça va. La famille.
Comment ? Ah, alors là, il faut m'aider.
Qu'est-ce qui fait que cette entreprise existe depuis 22 ans et qui n'a jamais...
Alt F4, zone de liste.
Attends, je vais peut-être couper la synthèse.
F4, zone de liste déroule.
Bon, vas-y, je te laisse. Tu fais, attends, insert F4, comme ça tu coupes la synthèse. Okay.
C'est quoi?
Vas-y, clique.
Zone de liste multi-tirée sélection puis des apostrophes éléments. Li.
C'est bon.
Zone de liste multi.
J'appuie.
Zone de liste multi.
Non, pas, faut couper la photo.
Ah voilà, voilà, voilà.
Attends, il faut que... Amener.
Vous pouvez basculer vers la bibliothèque.
Jamais arrêté ses exportations.
C'est une longue histoire. En fait, je suis venu en 92 au Burundi et très rapidement je suis venu. Moi, j'étais ingénieur agronome universitaire et quand je me lançais dans la production de plantes et que j'avais travaillé avec des paysans, j'ai tout de suite intégré des travailleurs, des paysans. Pour le choix de la terre, je suis venu avec des paysans. C'est eux qui ont choisi la terre pour moi. J'étais parti du principe que j'avais rien à apprendre et que eux avaient tout à m'apprendre.
C'est quoi pour toi le leadership?
C'est beaucoup de choses, mais avant tout, c'est avoir confiance en soi et transmettre cette confiance aux autres. Pour moi, un leader, il n'est pas devant, il est à côté et derrière. C'est ça la place d'un leader.
Morena Coaching International. Close to you, with energy and passion.
Voilà, donc c'est ça en fait, pourquoi Bernard a dit tiens tu es coach, mais voilà c'est parce que j'ai toujours eu je crois une attitude coach d'aider les gens. J'ai pas dit mais après mon accident en fait j'ai participé à la création d'une ONG au Burundi et je pourrais dire oui on a fait des projets anti-sida, on a créé une radio, on a créé différentes choses, on a créé un studio son etc. Mais moi ce qui m'intéresse, que je retiens surtout de notre ONG, c'est que par exemple on a une jeune fille, Sybille, qui est arrivée à notre ONG en 2001, et elle était choriste, là, c'est un projet, elle était une petite choriste timide. Maintenant, elle a un master à l'IAD en production, elle est représentante légale de notre ONG, et s'est vraiment développée. On a par exemple Eddie aussi, qui était dans notre ONG, et qui est venu, il aimait commencer, il voulait apprendre à faire la vidéo et tout. Et maintenant, en 2012, c'est ça, il a eu un prix au FESPACO pour un de ses documentaires. Donc FESPACO, c'est un festival international qui a lieu en Afrique. Il a eu le prix pour un documentaire qu'il a réalisé. C'est ça, pour moi, c'est ça du développement. En Afrique, c'est ça du développement humain. Donc c'est cette approche qui a fait dire à Bernard que ben voilà, j'étais coach, j'avais une attitude coach dans le développement des gens et des personnes. Où ça m'a amené ça? Cette formation en coaching m'a amené à plein de choses. C'est que j'ai vraiment pris conscience des choses et je vois par exemple, même à la maison, l'attitude, vous avez vu mon petit bonhomme qui est là, quand il vient avec des points, qu'il me dit « Ah papa, voilà, j'ai eu un 8 sur 10 », mais qu'est-ce que je fais? Je dis « Ok, wow, tu as 8 bonnes réponses. D'où est-ce qu'elles viennent? Comment es-tu arrivé à trouver ces 8 bonnes réponses? Qu'est-ce que tu as fait? Et les deux mauvaises là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es trompé et comment tu feras la prochaine fois pour ne plus avoir ces deux erreurs-là? Et c'est tout un travail de coaching qui évolue et qui est très chouette, qui est très, très agréable. Alors, donc je suis avec des mathématiciens, j'ai même fait des cours particuliers de maths. Et c'est extraordinaire parce que je ne vois pas, j'ai tout oublié, je ne sais rien. Et l'enfant est là, avec des enfants du secondaire, ils me disent « Oui, j'ai un truc, je ne comprends rien, c'est à l'aise. » Je dis « C'est quoi ce truc ?» Mais c'est des lignes et tout ça. Et alors, il doit c'est lui qui m'explique. Et je suis à son écoute. Et c'est lui qui m'explique. Alors, c'est un truc. Alors, il y a des lignes. Elles sont comment? Alors, il prend mes mains. Ah oui, c'est des triangles comme ça. Ah oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est lui qui m'explique. Et c'est lui qui trouve ses réponses. Et après, ça en crée, ça tient. Donc ça, c'est une attitude coach. Où ça m'a amené? Ça m'a amené, évidemment, je vais revenir au niveau purement coaching professionnel. Vous voyez donc l'entreprise que j'ai au Burundi a continué. Il y a eu ce développement au niveau personnel. J'ai aussi rejoint, là vous avez vu le clip, en fait, a été fait par Morena Coaching International. C'est un réseau de coachs internationaux. On est maintenant basé dans 16 pays. On est tout le temps en communication, donc il y a un côté co-développement. Et alors, maintenant, on a été faire des projets. On a été là au mois de juin dans 4 pays d'Afrique pour voir quelles sont les possibilités de nouveaux coachings. Alors, tout à l'heure, je disais, et c'est un réseau créatif. Nous, on veut aller vers là. On parle toujours de l'entreprise de demain. Et bien, dans son réseau, on se dit, OK, on va créer une entreprise de demain avec ses flexibilités, avec ses changements, etc., pour pouvoir transmettre ça aux gens. Et on fait du co-développement. C'est tout des coachs, en fait, dans ce réseau. Et on travaille ensemble. Comme ça. Oui, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est qu'en Afrique, évidemment, le coaching n'est pas... Là aussi, c'est pas facile à faire passer. Et là, je vous transmets déjà une façon d'aborder le coaching. C'est que là, on a eu beaucoup d'accueil pour des formations. En plus de ça, dans ce réseau, donc on a un réseau, donc on a plusieurs compétences dans différents domaines. Moi, j'ai des compétences dans la formation en coaching, dans l'outil coaching. On a quelqu'un qui est en gestion de conflit. Et qu'est-ce qu'on propose en Afrique? C'est dire, tiens, on va vous faire une formation. Voilà, sur 3 jours, le truc très... Mais après, on va vous suivre. Parce que c'est bien de donner des formations à des adultes, mais qu'est-ce qu'ils en font? Alors moi, en tant que coach, je vais après voir la personne qui a suivi la formation et dire, tiens, qu'est-ce que tu as retenu de cette formation? Et surtout, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu vas faire demain qui sera différent d'hier? Et puis, je revois 15 jours après, OK, tiens, ce que tu as mis en place, est-ce que ça a marché? Qu'est-ce que ça a donné? Ça a bien marché, comment tu vas le renforcer? Ça n'a pas marché, qu'est-ce que tu peux faire autrement? Et on suit les gens comme ça sur au moins 3 mois après la formation, on est dans le concret, on est dans l'application. Voilà un peu ce que je fais au niveau application personnelle, je réfléchis. Non, j'ai oublié les notes, de toute façon je n'en avais pas. Donc voilà, ça c'est ce que m'a apporté. Alors maintenant, je vous ai parlé résultats. Le coaching c'est très concret. Je vais vous parler des échanges. Par exemple, un client, donc le coaching, c'est ça. C'est on rencontre des gens, on a un échange. Ça peut se faire par téléphone, c'est ça qui est génial, parce qu'on évite tous les déplacements. On peut travailler à très longue distance. C'est quoi comme résultat? J'ai coaché, par exemple, une dame qui était chef d'entreprise au Burundi, et par téléphone ou par Skype. Elle venait de perdre son mari, etc., et elle voulait relancer. Donc, on a fait quoi? Améliorer son leadership, apprendre à déléguer. Vous avez vu en coaching, moi j'ai délégué à des paysans. Les paysans que vous avez vus, la télévision, ça savent ni lire ni écrire. Hein. Mais c'est eux, c'est leur boulot, c'est leur société. Et apprendre à déléguer à cette personne. Il n'y a pas longtemps, c'est l'année passée, j'ai une dame qui travaille à Charleroi. Y a rien, elle était vraiment au bord du burn-out. Il n'y a rien qui allait. Elle était à un poste élevé de secrétariat, mais son patron lui donnait beaucoup de boulot. Elle faisait des heures supplémentaires. Le personnel ne la respectait pas parce qu'elle n'était pas la patronne. Et en 6 séances, là c'est extraordinaire, ça a bougé d'une façon... En plus de ça, son mari l'avait laissé tomber, donc il n'y a rien qui allait. Et en 6 séances, en 3 mois, comme ça, pouf, elle a démarré, elle a retrouvé sa place, elle a mis les choses au clair avec son patron. Moi je suis là, je fais ça, etc. Ça l'a aidé. Elle s'est retrouvée bien au niveau du boulot, et en plus de ça, elle a retrouvé un copain, donc c'était vraiment des résultats extraordinaires. C'est très très gai. Hein. Je prends beaucoup de plaisir là-dedans, parce que en agronomie, et les ingénieurs aussi, vous êtes dans la construction, en agronomie, on plante des graines, elles poussent. Et bien le coaching, c'est ça. On met une petite graine, et ça pousse, ça démarre, et c'est très agréable. Contrairement à quelqu'un, un formateur, un prof, qui va venir, il faut faire ça, ça, ça. Moi, j'ai rien à apprendre. C'est mes clients qui viennent avec leurs idées, et ça bouge, ça change, c'est des trucs originaux. Parfois, ils me surprennent, ils me trouvent des pistes extraordinaires, et c'est gai parce que on se construit les uns les autres. C'est très, très agréable. Au niveau résultat, voilà, entreprise, oui, très, très important. Moi, je coach beaucoup des jeunes en fin d'études secondaires ou en fin d'études universitaires. Et là, ça peut se faire en une ou deux séances. En général, ces jeunes ont besoin de la petite impulsion, la, la, dites, les renforcer dans quelque chose. Alors là, ce que je fais surtout, c'est chercher le talent. Parce qu'il n'y a pas que « Ah, t'es bon en maths ou t'es bon en français », il y a ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que font ces jeunes comme hobby? Je vais prendre un exemple. J'ai mon fils, un fils qui, quand il n'y a rien dans le frigo, ben, il fait son petit plat, il coupe ses oignons, il coupe ses petites tomates, il prépare ses œufs, etc. Et je lui dis « Mais ça, c'est ton talent, t'imagines ?» Il dit « Mais c'est facile, ça, je fais tous les jours. » Mais le talent, c'est ça qui est difficile, c'est que c'est quelque chose qui est tellement facile pour vous qu'on ne se rend même pas compte que c'est une qualité. Parce que c'est peut-être un bête exemple, mais faire vraiment se mettre bien préparé, tout ça, pour lui, c'est facile. Moi, je ne l'aurais jamais fait, j'aurais jamais été capable de faire ça. Et je crois que beaucoup de gens sont incapables de le faire. Donc, il y a un talent quelque part, et avec les jeunes, c'est ça. On va chercher le talent, voir qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a derrière les études, derrière les résultats, qu'est-ce qui peut les intéresser et les orienter vers des études. Et ça marche. On peut faire aussi du suivi. Là, j'ai fait des suivis avec des jeunes sur plusieurs mois. Ils arrivent à l'université. Comment on fait? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça marche au niveau des cours? Qu'est-ce que tu as suivi? Il y a tout un suivi qui peut se faire à moyen, long terme. Au niveau, je prends toujours des exemples comme ça. J'ai une cliente qui, elle, ça fait maintenant 3 ans que je la coach, presque tous les mois, qui, elle, est en fin de carrière. Elle est indépendante, architecte. Elle doit arrêter sa carrière. Elle va prendre sa pension. Donc, elle doit arrêter son travail, mais elle doit mettre en place sa pension. Elle doit mettre en place des activités. Elle doit remettre en place une vie sociale. Donc, elle vit toute une transition de carrière et l'accompagnement d'un coach lui permet de faciliter les choses, de voir plus clair et d'avancer dans son cheminement, dans son chemin de vie. En transition, exemple de transition, si j'ai coaché évidemment vu les liens des ingénieurs qui sont parfois surpris par que la vie ne suit pas vraiment une ligne tout droite. J'aime caricaturer en disant que les ingénieurs souvent, ben, ils savent que A plus B égale C et ils ont fait A, ils ont B et ils trouvent pas C parce que la vie est comme ça et parfois on trouve D, parfois il y a des imprévus, parfois on trouve F et parfois on trouve rien et il faut permettre avec du coaching de pouvoir s'exprimer et d'échanger, ça permet de trouver son chemin. Et cet ingénieur, lui, il était mal, on l'avait mis dans une boîte et il ne sentait pas sa place. Alors, on a fait un travail comme ça pour pouvoir trouver sa place et puis il a essayé de se placer à tel niveau et ça ne marchait pas. Et après un an, il a dit « Ok, je démissionne ». Et maintenant, il est reparti vers une autre direction. Et il s'est réorienté tout à fait, parce qu'il y a la notion de bien-être qui intervient. Et quelque chose qui est riche dans le coaching, c'est ceci, et ça je parle à des cadres. Pour les cadres, c'est important. Vous êtes au boulot, vous avez un problème au niveau du travail, mais il y a peut-être un problème familial qui s'ajoute, c'est souvent très lié. Vous allez en parler à qui? À votre patron? Dire, écoute, moi ça ne va pas pour le moment parce que j'ai ceci et cela. Ça fout mal. En parler à vos collègues, aux employés, ça vous met à une mauvaise position vis-à-vis d'eux. Donc le coach est quelqu'un d'extérieur, tout à fait neutre. Il y a une éthique dans le coaching. Il ne va pas en parler, c'est comme un médecin, il n'en parle pas. C'est quelqu'un tout à fait extérieur à qui on peut vraiment parler. Et le fait d'exprimer, de parler, ça fait sortir les choses. Le coach lui répond par un questionnement, par des feedbacks, qui permet à la personne de vraiment voir clair dans ce qu'il fait. Et surtout, le coaching termine toujours par des mises en action. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est bien d'avoir des prises de conscience, de dire « oui, je gère mal mon temps, oui, j'ai ça trop, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais pour changer, pour évoluer ?» Ce qui est très bien aussi le coaching, c'est qu'il y a, je vous ai dit, c'est une personne extérieure, donc c'est une personne qui a un regard tout à fait extérieur, tout à fait différent. Je vais vous donner un exemple. J'ai Jean-Pierre Becquier, qui est mon coach mentor, qui est au Canada, avec lequel j'ai beaucoup de relations. Et qui m'a lancé aussi, je reviens un petit peu en arrière, au niveau de Morena Coaching, on est vraiment aussi dans la création, ça s'ouvre, on ouvre les choses. Et je me sens très bien là-dedans, après Naouéoué, des films comme ça, des créations dans vraiment l'ouverture, la création. C'est aussi une porte ouverte du coaching. Donc ce Jean-Pierre Becquier m'expliquait, par exemple, à un moment, il travaillait avec un manager, et il ne s'en sortait pas. Il avait plein de trucs, plein de boulot, plein de responsabilités à prendre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son manager par la main, il a dit « Viens, on va sortir ». Il l'a amené dans une forêt et il a dit « Tu vois, ta solution, elle est là ». Il montrait la forêt, il y avait des arbres, des forêts. Et le manager, évidemment, il s'est mis à rigoler, il m'a dit « Tu te fous de ma gueule ». Et puis en fait, après, c'était quoi le message? C'est que la solution, il fallait peut-être la chercher ailleurs, de sortir de son bureau, de respirer un bon coup et d'aller voir ces solutions ailleurs. Et c'est ça qu'a fait Jean-Pierre Becquier, lui ouvrir le regard vers autre chose. Parce que dans le coaching, souvent, vous allez voir les publicités. Ouais, le coaching, c'est aller plus vite, plus loin, atteindre vos objectifs plus rapidement et plus efficacement. Moi, je n'aime pas du tout cette approche. Pour moi, le coaching, c'est avant tout, arrête-toi un bon coup, respire, prends du recul et observe ce qu'il y a autour de toi. Et puis, tu vas partir plus rapidement en sachant où tu vas, en sachant ce que tu vas faire. On parle d'exemple de coaching. Il y a pas longtemps, c'était un mois avant les élections, j'ai coaché un homme politique. Et il est venu voir parce qu'il avait un problème, il avait un article, il ne savait pas s'ils allaient le publier ou pas. Il était en plein, le nez dans le guidon, à essayer de voir, à préparer aux élections, et il avait une décision à prendre. Le coaching a duré une heure et demie, et après il m'a remercié parce qu'il a dit, ouf, je me suis enfin assis, j'ai enfin pris le temps de prendre ma décision. Et c'est ça, et en faisant des culs avec quelqu'un qui suit, qui va dans la même direction. Et ça, c'est important de pouvoir s'arrêter et offrir ce temps-là à des hommes d'affaires, je crois que c'est fondamental. Offrir ce temps de recul, ce temps de respiration. Je crois que c'est très très important. Et c'est un des résultats du coaching. Une autre approche, je pourrais vous parler 10 000 exemples de résultats de coaching. Il n'y a pas longtemps, et pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'étais avec Philippe Rosinski, qui est un éminent coach, qui est ingénieur civil, sorti en 83, ici de Polytech. Qui est un éminent coach. Il était le premier coach atteint le niveau MCC, qui est le niveau le plus haut en coaching ici en Europe. Il a écrit 2 bouquins. C'est une sommité au niveau mondial. Et on a fait un séminaire sur le coaching multiculturel. Et lui, ce qu'il fait beaucoup, et je trouve très intéressant son approche, c'est de voir au niveau d'une équipe, mais qu'est-ce que je fais? Une équipe, c'est des gens qui viennent de différents horizons, avec différentes façons de s'exprimer, des différentes compréhensions. Et c'est de voir quels sont les points communs de cette équipe et quelles sont les divergences et qu'est-ce qu'on fait avec ces divergences. Il travaille notamment, quand on parle de multiculturel, ça peut être la culture d'entreprise. Par exemple, on a fait un exercice sur une boîte américaine qui veut fusionner avec une boîte suisse. La boîte américaine vient avec ses principes, ses idées, innover, efficacité. La boîte suisse vient avec une tradition familiale. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on se met ensemble? Comment on travaille ensemble? Et ça, c'est très, très intéressant comme piste aussi de travailler là-dessus. Ce que j'ai fait aussi, ça j'avais oublié de dire, en Afrique, c'est que, par exemple, on a fait aussi du coaching de groupe. On appelait les Morena Coaching Café. Et on rassemble une dizaine de personnes autour d'une table qui ne se connaissent pas forcément, et puis on décide d'un sujet. Par exemple, on a fait le leadership, on a fait la place de la femme. À un moment, on avait une réunion de femmes. Et on vient, la première question, tiens, avec quoi vous voudriez partir de ces échanges? Et puis chacun vient avec son expérience, et après 2 heures, on voit, ça c'est typiquement une attitude coach, j'ai dit, avec quoi vous repartez? Et chaque fois, on a eu des échanges extraordinaires. Je ne peux pas m'empêcher de partager un échange. On était en Ouganda, et on était dans le restaurant d'une dame qui travaille avec nous. On était dans ce restaurant autour d'une table. Et puis on parlait du leadership. Et puis à un moment, elle dit, lors de la discussion, elle dit, oui, on lui demandait avec quoi vous partez, elle dit, oui, je sens que je vais plus parler, plus écouter mon personnel. Je viens, je donne des ordres, mais je vois que je n'ai pas assez d'échanges avec elle. Et mon ami, j'étais avec François Quézin, donc celui qui a lancé le réseau Morena, et il se retourne et il voit que derrière elle, il y avait justement un serveur. Il lui dit, à cette dame, il dit, écoutez, votre serveur est derrière vous, est-ce que vous pouvez lui dire en face? Elle s'est levée, elle s'est retournée et lui a dit en face, écoute, lundi, on fait une réunion, je vais écouter ce que tes attentes, je vais écouter ce que tu veux. Et le gars, il est tombé en larmes, ils ont embrassé tous, enfin, c'était des moments fous. C'est pas grand-chose, mais ça allait loin, ça permet d'aller loin. Donc voilà, c'est un peu tout ça, le coaching. Excusez-moi si j'étais un peu partout comme ça, mais bon, voilà, j'ai parlé d'expériences, de choses comme ça que j'ai vécues personnellement. Il y a plein de possibilités. Il y a des coachs qui travaillent aussi avec des outils très précis, l'énéagramme, des choses comme ça. Personnellement, moi, je ne travaille pas forcément avec beaucoup d'outils de tests comme ça, parce que pour moi, un test, ça donne juste une petite photo et à un moment précis. ça peut servir de base de discussion. Il est clair que si vous faites un test genre Enneagramme, vous voyez telle personnalité, après on peut en discuter, on peut développer, ça c'est évident. Mais pour moi, ça reste une base de discussion et c'est des choses qu'on peut trouver autrement. Mais bon, ça marche et c'est important. Ça peut servir. Là, par exemple, aussi, j'avais travaillé pour la ville de Bruxelles, quelqu'un qui était comptable et qui, son patron voulait qu'il aille plus loin. Et pour ça, il avait besoin de renforcement, de savoir exactement quelles étaient ses valeurs, quelles étaient ses forces, quelles étaient ses compétences. Alors avec lui, on a fait un test. Ça l'a renforcé. En fait, il m'a dit qu'il n'a pas forcément appris grand-chose de ce test, mais ça l'a renforcé. Et ça, c'était important. Ce qu'il avait besoin, on a évolué avec ça. Voilà en gros ce que je voulais dire au niveau des expériences. Pour terminer, je voulais dire, voilà, si ça vous intéresse le coaching, comment on fait pour choisir un coach? Alors tout d'abord, il est clair qu'il faut une démarche au départ. Il faut se dire, j'ai besoin, il y a quelque chose qui doit changer, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de la vie, vie familiale, vie de tous les jours, et il faut avoir envie de changer. Si vous êtes bien dans le statu quo, bon, ben ça ne sert à rien, restez-y, il n'y a aucun problème, vous n'avez besoin de personne. Au niveau des possibilités d'accompagnement, il y a le coaching, je vais y revenir bien entendu, il y a le psychologue évidemment. Le psychologue, lui, c'est un peu les mêmes techniques, hein. C'est aussi des questionnements, c'est aussi des échanges, il y a des singularités, mais le psychologue a plutôt le côté thérapeute. Lui, il va peut-être aller plus vers le passé, aller voir quels sont les problèmes, d'où viennent les problèmes pour trouver une solution et appliquer maintenant. Ce que ne fait pas du tout le coach. Pour moi, le coach, c'est aujourd'hui et demain. Et je prends les gens comme ils sont. Je vais vous donner une anecdote. Il y a un parent, un vieux ingénieur, ça, qui est venu me voir et à un moment, il dit « Oui, mais mon fils, ça ne va pas, etc. Mon fils a 18 ans, il tourne en rond, etc. » Je dis « Bon, ben, envoie-le moi, on verra bien ce que ça donne. » Et puis, après 5 minutes, son fils me dit, comme ça, on était bien, évidemment, j'étais avec le fils, pas avec le père n'était pas là, dans cette idée d'intimité. Et le fils me dit « Ouais, mais moi, je suis nul, hein, et tout ça. » Ok, un psychologue, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il dit « Mais pourquoi tu as dit ça? D'où vient ?» Un père, il aurait dit « Ah oh, non, tu n'es pas nul, pourquoi tu dis ça ?» Moi, en tant que coach, j'ai dit, ok, mais en tant que nul, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et où est-ce qu'on va quand on est nul? Et alors, et ça a marché à fond, parce qu'évidemment, 5 minutes après, il m'a dit, ouais, bon, allez, trop fait, je ne suis pas si nul que ça, quoi. Et la porte était ouverte, et on a avancé, et il a trouvé des solutions, et il avance comme ça. Donc c'est vraiment, je vous dis, le coaching, c'est ici, on ne va pas commencer à analyser. La personne vient avec ses réalités, avec si c'est ses réalités, c'est les siennes. Moi, il n'y a aucun problème, je ne vais jamais discuter de ça. Je ne vais pas venir avec des jugements, dire c'est bien, c'est pas bien, surtout pas. C'est la réalité du client, c'est la bonne, c'est la sienne. Maintenant, on va voir jusqu'où elle amène, qu'est-ce qu'elle peut faire. Ça, c'est l'attitude du coach. Je vais comparer aussi d'autres accompagnements. Il y avait demain tout ce qui est formation. Ça, j'ai dit, on vient avec des choses bien connues et les transmettre. Le consultant aussi, le consultant vient avec des expériences, vient quelque chose à apporter de très précis, ce que n'a pas forcément le coach. Et alors oui, il y a une autre posture qui est le mentor. Le mentor, lui, autant le consultant vient en disant « voilà, ça c'est la solution », autant le mentor vient dire « tiens, moi j'ai connu cette expérience, je te la partage, je la mets sur la table, tu la prends, tant mieux, tu la prends pas, il n'y a pas de problème, elle est là ». Je vous avoue que moi, dans le coaching, j'ai d'ailleurs fait une formation en mentorat, je fais du partage en mentorat. Dans le coaching bien pensé, normalement, on ne peut pas le faire, mais je trouve que ça rajoute du partage. Avec des jeunes, c'est important d'avoir... Et puis ça rajoute de la relation, de l'humanité dans la relation. Mais c'est toujours dans l'idée, tiens, voilà, moi j'ai vécu ça, je te le présente comme ça. Tu prends pas, il n'y a aucun problème. C'est ça la position. Donc le premier critère, est-ce qu'on a besoin vraiment d'un coach? Le deuxième critère, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, mais le coaching a toutes les sauces. N'importe qui peut être chaud, il n'y a aucune protection sur le métier de coach. Hein. Demain, n'importe qui peut mettre sur sa carte de visite, je suis coach, il n'y a aucun problème, ce n'est pas du tout protégé. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau international, évidemment, il y a des systèmes qui sont mis en place. Il y a le plus grand système qui s'appelle l'ICF, donc International Coach Federation, qui rassemble je ne sais pas combien de milliers de coachs, et qui exige, pour être certifié de l'ICF, d'avoir une formation, d'avoir passé des examens, et il y a différents niveaux de coaching. Il y a le niveau SEC, qui est Associated Certified Coach, qui doit donc avoir un examen, des études, et un minimum de 200 heures de pratique. Il y a le PCC, qui est le Professional Certified Coach, qui demande, lui, un minimum de 700 heures de pratique, et le MCC, qui est le Master Certified Coach, qui lui demande plus de 2000 heures. Alors, dites-vous bien, ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, pour être PCC, c'est que tous les 3 ans, il faut renouveler ça. Donc, tous les 3 ans, il faut avoir prouvé qu'on a suivi des formations, des remises à jour, etc. Donc, ça rentre dans une dynamique. C'est quelque chose qui est très évolutif. Je l'ai dit, le coaching a démarré vraiment à fond, le coaching professionnel dans les années 80-90. C'est en plein boom, c'est en pleine évolution. Ça bouge, ça change, c'est très, très évolutif. Et c'est ça qui est passionnant. Donc, le choix d'un coach, il vaut mieux aller chercher quelqu'un qui est certifié parce qu'il y a aussi tous les aspects. Je vous ai parlé d'éthique, je vous ai parlé de confidentialité. Il y a tout ça, il y a quelque chose donc, qui est suivi par un organisme important. Le troisième critère, je dirais, c'est un peu l'expérience. Il est clair qu'un manager aura tendance à aller chercher un coach qui a une expérience de manager. Un entrepreneur ira vers un entrepreneur de préférence. Ça, c'est clair, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Alors qu'en principe, on n'a pas besoin de ça. En principe, je vous ai parlé tout à l'heure de Jean-Pierre Becquet, qui est coach professionnel. Il n'a jamais joué golf, il a été coach d'un joueur de golf. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce regard tout à fait extérieur. Le joueur de golf, ça fait 20 ans qu'il tape avec le même club sur la même balle. Le coach qui n'y connaît rien, il va dire, « Tiens, mais pourquoi tu as fait ça ? Quelle est la signification de ce geste ?» Et il va remettre en question ce qui était un automatisme. Et il va creuser ce qu'il y a derrière. Donc le coach n'a pas forcément besoin d'expérience. Moi, je suis prêt, je n'ai jamais été directeur d'une entreprise en Belgique, mais je suis prêt à relever du défi. Parce que le jour où la personne, mon client, me dit « Ah oui, mais ça, je ne sais pas », moi, je n'ai pas la réponse. Mais je pourrais l'aider à dire « Ok, qu'est-ce qui te manque comme information et où est-ce que tu vas aller la chercher ?» Je n'ai pas besoin de la connaître, l'information. Je vais l'aider à trouver son information et aller ça. Donc, il est tout à fait naturel qu'on aille vers un coach qui a la même expérience, mais ce n'est pas obligatoire. C'est parfois intéressant d'avoir quelqu'un qui a un regard complètement différent, qui est tout à fait ailleurs. Et pour terminer, le dernier critère, je crois que, vous l'avez compris, le coaching, ce sont des discussions. Il y a de l'intime qui vient d'office. Il faut présenter ses faiblesses. C'est ça qui est important et c'est ce que je disais peut-être au début. Ce qui est difficile aussi d'aller chercher un coach, c'est aller dire, écoute, j'ai un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que je voudrais améliorer, j'y arrive pas. Et c'est avouer une faiblesse. Donc c'est pas évident d'aller vers un coach. Et il y a ce côté confiance qui doit venir. Il faut que le courant passe. Donc si vous avez une discussion 5 minutes avec un coach qui écarte sa montre, qui vous stresse, oubliez, allez voir ailleurs. Si après la première séance de coaching, vous sentez que le courant ne passe pas, allez voir ailleurs. Il faut qu'il y ait un courant qui passe. Il faut qu'il y ait un feeling. Il faut que le coach ait peut-être quelque chose, un peu de sérénité, de calme. Je vous ai parlé de recul. C'est quelqu'un qui doit vous amener à avoir la possibilité d'avoir du recul. Voilà un peu, en gros, pour moi, les principaux critères de coach. J'ai oublié de dire, en parlant d'éthique au début, c'est que je parle au nom du coaching, mais je parle évidemment de mon expérience personnelle. Peut-être, je vous invite vraiment une fois à inviter Yves Rosinski, parce que c'est un alumni, de venir ici. Il va peut-être vous présenter certainement les choses autrement. Ce sera son film, enfin voilà. Voilà ce que je voulais présenter. Alors, j'ai beaucoup parlé. Normalement, un coach ne parle pas. Il pose des questions. Alors, je vous laisse la porte ouverte à toutes les questions, tous les échanges. Allez-y, je suis à votre écoute.
Moi, j'ai fait un coaching, donc je savais que ça existait. Puis je voulais changer de carrière, j'ai trouvé ce que je voulais, et je voulais me donner toutes les chances de bien démarrer. Et donc, je me suis dit, j'ai besoin de quelqu'un d'extérieur avec qui je me sens en confiance, et donc j'ai fait ça, c'est une expérience extraordinaire. C'est se donner le luxe de démarrer dans la confiance avec quelqu'un avec qui on peut parler de son expérience. J'étais tellement persuadée que c'était un outil de développement génial qu'après j'étais DRH dans une boîte et donc il y avait mon patron qui venait d'avoir une promotion extraordinaire et donc il passait d'avoir dirigé 20 personnes à diriger 500 personnes sur 6 pays. C'était un Américain. Et donc je lui ai proposé de faire du coaching en tant que DRH. Et j'ai failli me faire virer dans le... Alors tu dis qu'aux États-Unis oui. c'est bien vu. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le coaching a démarré dans les années 80 comme outil, entre guillemets, d'outplacement. C'est-à-dire que le coaching a été présenté aux gens très haut placés, bien sûr, mais qu'on voulait virer, ou en tout cas qu'on voulais qu'il parte gentiment, noblement. Mais donc, cet homme-là, qui avait sans doute terminé sa formation, a démarré sa carrière dans ces années-là, son vécu, on était resté là. Ce n'était pas quelqu'un qui était du domaine des RH, c'était un patron d'entreprise. Et donc, pour lui, c'était très stigmatisant. Donc, je pense que quand on propose du coaching à quelqu'un, il faut quand même être très prudent sur le contexte de référence que la personne a par rapport au coaching.
Il est clair, tout à l'heure, je vous ai donné un exemple d'un père qui est venu me présenter son fils. Les trois quarts du temps, ça ne marche pas, parce que ça doit être la démarche de la personne. Et j'ai eu le cas aussi, comme ça, la même histoire, un père qui me présente son fils, ils sont venus, son père, il n'y a rien qui allait, c'était la catastrophe, et son fils vient, il me dit, moi, tout va bien. Le coaching s'était arrêté là, il a duré 30 secondes, je ne savais rien faire. Ça, c'est clair que de l'extérieur, c'est toujours délicat. On étudie le coaching, souvent, c'est un patron qui conseille à un de ses employés de se faire coacher, c'est très, très, très difficile. Il faut vraiment, là, ça demande... je vous ai dit, le coaching, c'est un accompagnement, c'est des discussions, mais avant tout, c'est aussi une structuration. Il faut bien mettre en place. Et dans des cas pareils comme ça, un coaching à trois, c'est vraiment bien mettre en place. Et je peux comprendre ton patron, parce que tu es venu dire, ah, il y a peut-être une faiblesse. Il a peut-être très mal pris. C'est vrai que c'est pas évident à démarrer. C'est pour ça que je vous dis, par exemple, aussi dans mes expériences, je suis accrédité par la Commission européenne pour coacher les cadres de la Commission européenne. Je n'ai pas encore eu de clients. Parce que ce n'est pas dans les habitudes, dans la politique des cas de la Commission européenne de se remettre en question et de bouger. Donc c'est très bien. Oui, oui, il y a du boulot. Hein. Mais pourtant, il y a des choses à faire. Mais voilà, ça doit venir de la personne et dire, OK, je vais me remettre en question. Parce que le coach, je vous ai parlé de confiance, mais de temps en temps, l'objet du coach, je vous ai parlé de cet exemple-là de mon ami qui a amené son client dans la forêt. De temps en temps, le coach, il est là pour bousculer, de faire sortir de la zone de confort, d'amener vers autre chose. Et ça demande des remises en question, oui. Ça, c'est clair.
J'ai une question. Oui. Je crois qu'on a beaucoup entendu parler de coaching individuel ce soir. Est-ce que tu as fait aussi allusion à un certain moment à coaching de groupe? Dans mon expérience de gestion d'équipe DRH, il y a du coaching individuel, du coaching d'équipe et du coaching d'organisation en termes de mise en place de culture et de dynamique et de valeurs et de ce qui est promu comme comportement, etc. Est-ce qu'il y a une façon différente d'approcher le coaching individuel, d'équipe, d'organisation et différentes filières ou différents types de coach à trouver en fonction
Oui, quand même, hein, parce que les bases sont les mêmes, hein, les outils sont les mêmes. Hein, je ne les ai peut-être pas assez développés. C'est installer une structure, placer un cadre, et c'est avant tout l'écoute. Écoute, le questionnement, les remises en question, les feedbacks, tout ça, et les mises en action. Donc la base est la même. Ça, c'est clair. Il est évident que, je parle surtout au niveau des organisations, ça demande vraiment de l'expérience et beaucoup de mobilité. Et c'est un gros travail, hein, ça ne se fait pas en 5 minutes. Hein. Souvent, le coaching, c'est minimum 6 mois, 1 an, ça dépend des objectifs, évidemment, de l'individu ou de l'équipe ou de la personne qui supervise l'équipe, de ce qu'il veut voir.
Et mais les coachs d'organisation vont suivre les mêmes filières ou
Alors, je ne pourrais pas te faire un dessin fil parce que, par définition, le coaching est à l'écoute, est très flexible. Sa première chose, c'est de la flexibilité. Donc, ça dépend de l'organisation. Est-ce que la demande vient d'un patron? Est-ce qu'il y a un objectif précis? Donc, c'est d'abord bien cerner quel est le contexte, bien comprendre quels sont les enjeux. Et puis, c'est certain. Moi, j'entends beaucoup, je discutais beaucoup avec justement Philippe Rosinski, qui lui fait beaucoup de coaching d'équipe. Il y a l'équipe, mais il y a le côté individuel aussi. Donc, lui, presque systématiquement... Moi, personnellement, je n'ai jamais fait du coaching d'équipe parce que, bon, avec mon handicap aussi, c'est difficile à suivre et bien écouter les gens, surtout quand ils ne parlent pas, je veux dire. Là, c'est important. Et il y a le côté individuel. Il travaille avec les individus et l'équipe. Et c'est important. C'est une façon d'aborder les choses. J'ai fait du coaching de groupe. Là, c'est différent parce que le groupe... La différence entre l'équipe et le groupe, c'est que les équipes, le groupe, les gens ont des intérêts communs, mais pas un objectif commun. L'équipe, il y a un objectif. Et c'est à mettre en place avec le patron, avec l'équipe, et de voir quel est l'objectif, vers quoi on va et comment on met les choses en place. C'est des approches, mais les outils de départ sont exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Moi, je voudrais partager une anecdote. Ça date de ma vie professionnelle antérieure. C'était aussi une entreprise américaine. Et on était une cinquantaine, disons, de toute nationalité. Et c'était une espèce d'introduction au coaching, pour me prouver que le coaching, ça fonctionne. Alors, les gens, les coachs, en l'occurrence, nous ont donné des balles de ping-pong ou des petites balles. Mm-hmm. Et on était par équipe de deux. On jouait chacun à notre tour le rôle de coaché et le rôle de coach. Donc, ils nous avaient donné quelques bases, hein, il faut poser une question, il faut utiliser le sens, c'est pas seulement des questions rationnelles, mais c'est qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu vois, etc. Et l'idée, c'était de nous apprendre à jongler. Mm-hmm. Et donc, il y a un gars qui savait jongler, qui a dit voilà, pour jongler, il faut faire ça, tac, 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 et un vent, au bout de 3 secondes, il avait 6 boules en l'air. Et puis, on était laissé avec même, donc un coach, un coaché. Au bout d'une demi-heure, tout le monde jonglait avec 3 balles, et il y en avait qui étaient à 4-5 balles sans problème. C'était vraiment extraordinaire comme résultat. Mmh. En très peu de temps, rien que par quelques techniques de base, de coaching, on a tous appris à jongler. Et moi, je suis extrêmement nul pour ce genre de truc.
Jean-Luc, moi j'avais une petite remarque aussi. En fait, tu y as partiellement répondu pendant ton exposé, parce que pendant que tu parlais, je me disais, mais il y a quand même une frontière ténue entre la psychologie et le coaching. Et puis tu as fini par en parler, et je me disais, est-ce qu'il y a parfois des... Tu as l'air de dire que parfois des gens se trompent, viennent te voir, tu les réfères plutôt à des psychologues. Il peut arriver qu'un psychologue reçoive quelqu'un, donc pas un client, mais un patient, et que ce psychologue se dise, au fond, cette personne n'a rien à faire chez moi, je ferais mieux de l'envoyer chez un coach. Mmh. Est-ce que c'est déjà dans les mœurs, ça, cette espèce de va-et-vient entre les deux disciplines? Parce que parfois, c'est délicat. Toi, tu parles d'un client, le psychologue parle d'un patient. Mais quand tu parles de cette femme architecte qui est en fin de carrière, ça me faisait penser à quelqu'un qui aurait peut-être aussi pu avoir l'idée d'aller voir un psychothérapeute pour l'accompagner dans cette fin de... dans cette transition professionnelle, tu vois. Et je me disais, est-ce que certains psychologues te disent, moi j'ai quelqu'un, il ferait mieux de te voir toi que...
Je réfléchis, en fait, oui, non, c'est vrai. Il y a des échanges, enfin, oui, je connais quelqu'un qui est plus dans le suivi de jeu, oui, et qui est... C'est pas évident parce que bon, il n'y a pas un marché énorme et c'est un peu chasse gardée, ça c'est clair. Oui, et puis au niveau des psychologues, il y a ce qu'on appelle de plus en plus un mouvement qui se développe, c'est ce qu'on appelle les psychologues comportementalistes, qui eux sont plus aussi vers ok, je te prends maintenant et on va voir demain ce que tu peux faire et renforcer dans la prendre la personne telle qu'elle est sans les côtés, chercher le côté thérapeute. Mais c'est pas trop. Mais ce qui est clair, c'est que moi, dans les apprentissages, si quelqu'un, un client vient me voir et qui commence à me parler de ce passé, tout de suite, je vais l'orienter. Moi, je ne sais rien faire avec ça, je sais. Et je me sens très, 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 très mal à l'aise.
Je sens bien que toi, tu connais très le cadre dans lequel tu peux travailler, mais je me demandais si, inversement, les psychologues pouvaient aussi se dire, oh là, il va bien, il a besoin de petite remise en question, coaching, quoi, tu vois. Mais c'est peut-être pas courant, j'ai jamais entendu un psychologue, pourtant j'en connais un. Qui me parle de coaching, alors que toi, tu parles de psychologie. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
J'ai peut-être un petit partage pour alimenter les réflexions. Donc, moi, je suis psychologue de formation aussi de l'IMB. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, les psychologues ne sont pas du tout formés pour devenir psychothérapeute. Donc, les psychologues sont formés pour pouvoir établir des diagnostics. Donc, face à une personne, de pouvoir évaluer. Où en est-il par rapport à la norme de notre société? Est-ce qu'il est dit normal parce qu'il rentre dans notre norme, ou au contraire, est-il dans le domaine du pathologique? Et comme il y a plusieurs spécialités en psychologie, vous avez tout le groupe de ceux qui vont en psychologie clinique, et beaucoup sont intéressés pour devenir psychothérapeute par la suite, et vont suivre leur formation vers ça. Puis il y a les autres, il y a les psychologues du travail, donc industriels, psychologues des organisations, donc il y a toute une approche, une dimension de réflexion et de formation par rapport à ça, et la neuropsy qui s'est très très fort développée. Et sur ce groupe-là, de psychologues des organisations ou psychologues sociaux, là vous allez retrouver des personnes qui, si elles parviennent à faire le diagnostic et de se dire, tiens, je suis face à quelqu'un qui représente la norme, qui n'est donc pas dans le pathologique, mais qui malgré tout est en souffrance, qu'est-ce que je lui propose? Et là, il y a tout le côté, comme vous disiez, de thérapie comportementale, de thérapie brève, qui utilise les mêmes outils que le coaching, mais dans un cadre qui va être différent, et où le questionnement n'est pas le pourquoi ça ne va pas, mais comment tu vas faire pour que ça aille. Et donc là, vous avez une ribambelle de psychologues qui se vivent psychologues, mais qui font du coaching. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, aujourd'hui, quand on voit un petit peu... Alors, il y a des différences de tranches de génération. Les plus jeunes vont faire la différence entre coaching et psychologie. Là où les plus anciens, qui connaissent les techniques qui aujourd'hui sont portées par coaching, mais eux le font depuis 20 ans, 30 ans. Donc pour eux, il n'y a rien de neuf. Je vais être horrible, mais à la rigueur, les coachs sont des usurpateurs.
Oui, c'est vrai.
Et en plus, ne sont pas reconnus. Et en plus, n'ont pas de formation sur les sujets. Évidemment. Et donc là, c'est parti pour les querelles de chapelle. Et donc, comme vous disiez, certains ne vont même pas avoir le réflexe de renvoyer vers des coachs parce que, par principe, ils sont convaincus dans leur trip qu'il manque quelque chose au coach, qui est le travail sur eux-mêmes. Et donc, par essence, ils ne sont pas d'accord. Et puis, il y a la nouvelle génération, tout à fait ouverte, bien évidemment, les meilleurs, la jeunesse. Pas bien, vous.
Je connais un peu qui doit être un jeune, parce que exactement. Il m'a renvoyé vers un coach.
Jeune d'esprit.
C'est un jeune.
Non, un monsieur d'un certain âge, plus âgé que moi, voilà, qui m'a renvoyé vers un coach.
Ça existe.
Ce que j'aime bien, il y a une notion qui est importante, c'est la notion de brève. Ce qui est très intéressant en coaching, et qui n'y a peut-être pas toujours en psychologie, c'est la première question, c'est qu'on pose à un client potentiel, c'est où est-ce que tu veux aller? Avec quel résultat tu veux partir? Donc on a un point de départ, où on est maintenant et où tu veux arriver. Et une fois que le point d'arrivée est atteint, c'est fini. Ok, le coaching est terminé. Donc on a un début. Alors après, il faut voir, est-ce que cet objectif doit être atteint rapidement? Ben, on va faire du coaching, on va faire des rencontres tous les 15 jours, toutes les semaines même. Si c'est plus à plus long terme, ben, on peut espacer, ça dépend tout. C'est vraiment très très à la carte. Mais il y a un début et il y a une fin. Et il y a un moment où on se dit, ok, waouh, on a atteint l'objectif, c'est fini, au revoir. Et ça, c'est très important, je trouve ça. Et reconnaître ce moment aussi, c'est important. Ça fait partie du coaching. Ce qu'il n'y a pas forcément toujours en psychologie. Je ne veux pas mettre...
Je mettrais la nuance entre psychologie et psychothérapie. Et sur la dimension psychothérapie, alors là, je vous suis à fond. Et le psychologue, et c'est vraiment ça, le psychologue, l'essence de son métier n'est pas de faire de la psychothérapie, c'est de faire du diagnostic. Et c'est là où je pense qu'alors, il peut vraiment rencontrer et comprendre le monde du coaching. Et bon, pour certains, il y a peut-être d'autres difficultés, mais la psychothérapie, c'est encore autre chose. Et donc, c'est peut-être cette nuance-là.
Oui, non, merci. Oui, c'est important de préciser.
Qui peut nous aider à bien comprendre chacune de nos disciplines se rencontre.
Moi, j'ai une question très mercantile.
Oui, je viens.
Entre le psy, le consultant, tout ça, imagine qu'on paye le coach.
Oui.
Où est-ce que vous vous situez en fait?
Est-ce que c'est en termes de résultats?
Quelles sont les pratiques en fait?
Alors, vraiment, il n'y a vraiment pas de règles. C'est vraiment au cas par cas. Parce que ça dépend de l'employé. Moi, je vais vous dire, si vous demandez mes tarifs, je vais vous dire bêtement, entre nous, c'est à la tête du client. C'est-à-dire. Mais non, mais sérieux.
Le consultant aussi, Jean-Luc.
C'est ça. J'ai un étudiant qui vient, qui est paumé, tout ça. Je vais parler. Je sais qu'ici, dans les banques, les entreprises, ça peut aller jusqu'à 500 euros la séance de coaching. Une séance de coaching, c'est une heure et demie. Hein, et ça dépend à qui ils sont adressés, qui finance, qui est derrière. Aux États-Unis, on compte en général 250 dollars la séance.
C'est la séance,
plutôt que par résultat. Mais on peut faire un forfait du style, par exemple avec des organismes, genre Commission européenne, c'est 12 heures de coaching. Voilà, c'est 12 heures, on fait 12 heures, on paye un forfait là-dessus, avec un objectif de résultat. Moi, ce que je fais aussi, par exemple, avec des clients que j'ai souvent, c'est offrir la possibilité, ben, t'envoies un mail, hop, moi je réponds d'office. On peut faire même du coaching express. J'ai un chef d'entreprise qui est là, ouais, j'ai une réunion, qu'est-ce que je fais, etc. En dernière minute, bon, ben, j'appelle mon coach, et en 15 minutes, on cerne les choses, il s'exprime à quelqu'un à l'extérieur, et on a un résultat, et ça, on ne fait pas payer, évidemment. Ça, c'est... Il est clair que, bon, je vous parle des tarifs aux États-Unis, la moyenne, c'est dans les 250, ce qui est très cher. Pour moi, ici, du coaching individuel, on est dans les 60-80 euros, la séance. Il y a des coachs qui sont là à l'heure, c'est à l'heure, à 60 minutes, c'est fini, on arrête. Moi, je n'aime pas ça, parce qu'on est parfois un moment important du coaching. Parfois, le coaching, on discute, on sent, on tourne en rond, et puis paf, il y a un truc qui démarre. Je ne vais pas dire à ce moment-là, ah non, non, maintenant c'est fini, ou ce sera 20 euros en plus. Hein. Je me sens très mal avec ça. Donc, à ce moment-là, on démarre. Pour moi, une séance de coaching, ben, c'est entre une heure et deux heures, parce que ça dépend. Après deux heures, le coaché explose. Mais et on travaille comme ça sur un forfait. Évidemment, les entreprises, si ça vient d'entreprise, la Commission européenne, ils payent plus que ça, ça je vous garantis. Voilà,
c'est
je ne sais pas.
Autant au forfait.
Oui, et au nombre de séances et sur l'échange, comme je dis, il y a parfois dans des cas précis, ça peut être un travail parce que dans un mois, il faut prendre telle décision. Donc là, on est parti à fond et pendant un mois, on va se voir toutes les semaines. Ou comme cette dame, je dis, qui prépare sa pension, ben, ça fait 3 ans qu'on travaille. Hein. C'est un autre trip, c'est tous les mois. Je ne sais pas de donner de réponse comme ça précise. Et tout dépend des résultats. Ce que je peux vous garantir, c'est que les résultats, et c'est quantifiable, c'est chiffrable. Dans l'industrie, il y a des résultats.
Il y a raison plus de se faire payer aux résultats.
Oui. Qu'on peut investir. Oui.
Non, pourquoi pas.
Oui. Parce que c'est simple, tu demandes le tarif. Si quelqu'un vient et me dit, écoutez, ah, moi, je n'en sors pas, je ne sais pas gérer mon temps. Si après 3 mois, tu arrives à travailler une heure de moins, ça fait quoi comme... Combien ça vaut,
ouais.
Là, je gagne plus que 20 euros par heure.
Je pense, ouais,
que... OK.
Ariane a une question.
Oui,
bonjour, oui.
J'ai eu la chance d'être coachée par Jean-Luc. Aïe. Ça prend une relation privilégiée. Et en fait, j'avais une question, et je vais essayer de la poser de la manière la moins ardue possible, c'est, mais je n'ai pas d'autre mot que difficulté. Pour toi, dans ton métier, c'est quoi la plus grande difficulté? On a tous compris, je crois, que tu avais atteint des objectifs avec plein de clients, etc. Mais il doit bien y avoir, à un moment donné, des trucs qui vont être compliqués. Et je ne parle pas théoriquement, je dis peut-être c'est humainement, peut-être que c'est retenir le parcours de chacun parce que ça devient compliqué. Mais j'en sais rien, quel est le... On a tous des difficultés dans le métier, je me demandais, parce que tu n'en as pas parlé du tout, et donc je me demandais, après, nous on s'est vu, on s'est entendu et vu il y a 3 ans, ou 4, même si c'est pas 5, et donc on dit, en 5 ans, tu as dû en voir toutes les couleurs.
Mais la difficulté, quelque part, j'en ai en parlé indirectement, c'est qu'en Europe, le coaching n'est pas encore, les gens ne sont pas encore si familiers et si ouverts au coaching. Et la démarche que tu as faite d'aller voir un coach, c'est une démarche que peu de gens font. Et moi, en tant que coach, je ne sais pas vendre du coaching comme on vend des cravates. Si quelqu'un, un bon commercial va vendre une cravate à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Moi, je ne sais pas vendre du coaching à quelqu'un qui n'en a pas besoin. S'il n'en a pas besoin, il ne sait rien faire. Je prends l'exemple du jeune tout à l'heure, il va s'asseoir et dire, mais tout va bien.
Non, mais c'est parce qu'il croit qu'il n'en a pas besoin, ce qui n'est pas la même chose.
Mais
c'est pas du tout la même chose.
Oui, mais de là, aller lui prouver qu'il a un besoin, ce n'est pas évident.
C'est une démarche personnelle.
Oui, c'est une démarche très personnelle.
C'est la difficulté, c'est la démarche volontaire.
Oui, voilà.
Donc, c'est finalement trouver le...
Trouver la clientèle.
Et les mots qui vont exprimer l'intérêt de faire cette démarche-là et d'aller sur le tour de
et d'aller, tout à fait. Une fois que c'est parti, je trouve, ça démarre, ça marche, et comme il y a des résultats, il y a des mises en action, c'est du dynamique. Alors parfois on bloque, oui, mais ça je crois, mais avec l'expérience, je me sens maintenant à l'aise de dire, ben oui, ça fait une heure qu'on tourne en rond, qu'est-ce qui se... Alors c'est simple, si, ça fait une... je suis avec un coaché, ça fait une heure qu'on tourne en rond, pour moi ça me parle. Comment ça se fait qu'on tourne en rond? Qu'est-ce qui manque pour qu'on démarre? Et ça me parle. Maintenant, je suis à l'aise avec ça. Au début, évidemment, je n'étais pas du tout avec ça.
Oui, tu as envie du résultat. Et donc,
Oui, et ça, c'est ça que je parle beaucoup avec beaucoup de participants en coaching de gestion, les classes que j'anime. C'est ça. Et beaucoup sont dans le résultat. Oui, je dois obtenir un truc. Il faut. Non, non. Le résultat appartient au coach. Et c'est, il faut l'aider à trouver sa réponse. Et ce n'est pas parce qu'il a. Que moi j'ai posé la question qu'il fallait qu'il va trouver. C'est mon résultat est celui de mon coaché.
C'est pas ça la plus grande difficulté, Jean-Luc, c'est de ne pas transposer pas transfert, mais justement de se dire toi tu dis je vais donner des expériences. T'as parfois envie de pousser un peu. Pas ce qu'il doit faire alors que, ça a l'air tellement évident.
Et ça, c'est le plus dur. C'est que toi, tu vois la solution, mais grand comme une montagne, et lui, il ne la voit pas. Mais alors, à ce moment-là, la position du coach... Je vois dans beaucoup de jeunes coachs, ça, c'est le gros problème. Ils viennent avec les solutions, etc. Et pendant une séance de coaching, ils parlent pendant 80% du temps, alors qu'un bon coach parle 5% du temps. Il pose 3 questions et c'est tout. Et c'est ça. Il laisse la personne démarrer. Et ça, c'est clair qu'on a envie. Mais quand, maintenant, l'attitude que j'ai, c'est quand la solution paraît énorme et qu'il ne la voit pas, le questionnement, c'est dit, mais qu'est-ce qui lui manque? Comment ça se fait qu'il ne voit pas? Moi, je vois un truc énorme. Ou alors, je prends, avec ce que je fais souvent avec des jeunes, alors je prends la position mentor, je dis, écoute, je vais te partager une expérience. Et moi, j'ai vécu ceci. Et si ça lui parle, ouf, c'est bon. Parce que normalement, on peut pas amener des solutions. Ouais. Ça, c'est... Mais c'est vrai que oui, il y a des moments où ça sort des tripes, on dit, mais mince, quoi. Tu dis, allez, je mets un coup de pied au derrière et ça bouge, quoi. Hein. Ça, c'est clair, ça, c'est évident. Mais, je sais pas, à côté de ça, moi, je trouve l'expérience qui est intéressante, c'est que, c'est ce que je disais, c'est de ne pas venir avec ses propres solutions. Donc, moi, j'apprends toujours des solutions de mes coachés. C'est ça qui est très intéressant. Parfois, ça part dans des directions tout à fait inattendues et intéressantes. Intéressant.
Une petite peut-être remarque. Oui. Donc il y a l'attitude de coach de tout un chacun. Moi j'ai eu des cours en fait de coach et j'ai été coaché par Shirley qui a parlé tout à l'heure, la psychologue. Hein? Et en fait c'est en termes de gestion. Donc en termes de gestion, il y a différentes techniques de gestion et une des techniques utilisables c'est le coaching. Alors on nous a appris des techniques de coach. On a été coaché en grande partie surtout pour qu'on voit un coach à l'œuvre, je pense, pour qu'on puisse soi-même essayer de copier un peu ce genre d'attitude. Mais ce qui me parle là-dedans, c'est qu'en fait, on peut tous être, on est tous quelque part coach à certains moments, et on peut tous l'être. Donc moi, je trouvais intéressant d'être coaché aussi pour ça, aussi pour améliorer sa propre capacité de travailler avec une équipe. Et d'en sortir autre chose que du pure management ou du pure leadership. Quand tu donnes des cours à des futurs coachs, quelque part, je me dis que je trouve qu'avoir reçu des cours en tant que non-futur coach, il y a cet intérêt-là aussi. Et donc là, on ne va plus voir alors en tant qu'entreprise. Donc c'est l'entreprise, c'est le ministère fédéral qui a engagé. Former des managers d'une autre manière, l'entreprise peut être demandeuse, alors à ce moment-là, dans un autre cadre qu'une personne qui soit visée, en fait. C'est donner une forme de compétence supplémentaire à des gens qui sont aux commandes, quelque part. Donc c'était plus une remarque qu'une question.
Non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, Bruno, là, quand je vois coaching de gestion, l'école du Canada, sur 10 étudiants, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont devenir coach. Mais je vois dans les participants, la plupart, ce sont des gens qui travaillent en RH, des managers, etc., qui veulent acquérir les techniques de coaching pour pas devenir coach, mais être meilleur leader. Et l'intérêt du coaching, c'est quoi? C'est que Et moi, vous avez vu avec mon expérience que j'ai eue en Afrique, c'est que quand on est là, on est le patron, on dit, tiens, mais pour faire résoudre tel problème, il faut faire ça, ça, ça. Et puis, votre employé, ben, il doit faire ça, 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 il n'a pas le choix. Et le lendemain, vous devez le suivre. Est-ce qu'il a bien fait ça, ça? Et après le lendemain, est-ce qu'il a bien suivi mes instructions? Tandis que là, le leader coach, il va laisser venir la personne. Il dit, quel est le problème? Et quelles sont, toi, tes solutions? Et c'est l'employé qui va trouver ses solutions, qui va se mettre en valeur. Et comme c'est sa solution à lui, ce n'est pas celle imposée par le patron, il va la mettre en application tout seul. Et c'est la délégation, ça prend un certain temps pour habituer les employés à travailler comme ça, mais après ils partent tout seuls, ils se développent, ils augmentent leurs compétences. Et c'est très riche, ça ajoute une dimension, je trouve, humaine aux relations, et ça facilite les choses. Hein. Au Burundi, j'y vais tous les 5 ans, hein, et la société, elle tourne toute seule. Hein. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est un petit truc, hein, c'est pas IBM, mais voilà, ça tourne. Ils n'ont pas besoin de moi.
Ce que tu réponds là, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que ça veut dire que chaque personne trouve en elle-même la ressource pour arriver à faire quelque chose qui à la fois soit efficace et qui l'amuse et qui apporte des choses. Mais moi, j'ai rencontré dans ma vie, et tu le sais aussi, parce que j'ai aussi une partie de club. qui se sentent harcelés ou quoi quand tu les mets dans une position de libre choix et de qu'est-ce qui t'intéresse et qu'est-ce qui t'amuserait là-dedans, qui attendent des ordres. Donc ça veut dire que quelque part, je me pose la question, on peut avoir le coaching individuel, mais si tu te trouves dans une équipe qui ne fonctionne pas dans ce système-là, il reste quoi, démissionner, changer de service? Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Mais c'est quelque chose, à la limite, il y a un projet qui est particulièrement intéressant, je trouve, parce que c'est toujours gai de pouvoir dire, il n'y a plus besoin de chef, il est juste là comme coordinateur pour éviter que les bonnes idées fassent dans tous les sens, et voilà, il faut un tout petit peu éventuellement répéter ça. Mais quand tu te trouves avec une équipe qui attend un chef,
je suis tout à fait dans ton sens, Françoise. Ce que je dis, ce n'est pas la panacée universelle. Ça marche, c'est quelque chose qui met en valeur. Tout à l'heure, on parlait du coaching d'équipe. C'est de voir, et ne fût-ce qu'avoir conscience, de dire, OK, dans mon équipe, j'ai des gens, si je leur donne une étincelle qui démarre, j'en ai des autres qui ont besoin des instructions comme ça. Ça, c'est quand même le rôle du patron. S'il y a un moment où le patron doit dire, c'est ceci, j'ai pris la décision, on fait ça. Il y a la place. C'est un outil parmi les autres, c'est pas la panacée. Mais on revient au coaching d'équipe, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir un coach d'équipe, on a parlé de valeurs, de voir qu'est-ce qu'il y a dans l'équipe, comment fonctionnent les gens, et prendre conscience de dire, OK, j'ai une équipe, c'est un ensemble hétérogène, c'est des gens qui ont une communication directe, c'est des gens qui ont une communication indirecte, s'il y en a qui sont dans le non-verbal, dans le verbal, et d'avoir vraiment conscience du fonctionnement de chacun. Et on en fait, bon, il y en a... Le petit fonctionnaire qui rêve qu'une chose, c'est mettre son cachet toujours même dans sa vie, il est là. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça ne va pas marcher avec le coaching, OK, il n'y a pas de problème. Mais le fait d'en avoir conscience est important.
Je peux faire un petit témoignage par rapport à ça. Je reviens sur le coaching d'organisation, il y a trois niveaux, donc individuel, équipe et organisation. Enfin, là où je suis, il y a des gens qui sont vraiment ce qu'on appelle chez nous des très bons soldats, donc ils sont plus dans un mode à attendre l'instruction, et puis d'autres qui prennent beaucoup plus d'initiatives. Et donc, dans les project managers, j'ai des personnes qui ont un style plus autoritaire et d'autres qui sont plus consensuels. Et donc, justement, c'est de réussir à mettre les équipes ensemble de manière à mettre les autoritaires avec les gens qui attendent justement toutes les instructions et qui vont bien ensemble et qui vont plus chercher justement une mentoring et de suivre l'exemple. Et puis alors, dans d'autres équipes, ben là, on a plus une richesse de création, parce que là chacun peut s'exprimer, et puis à ce moment-là il y a quelqu'un qui a suffisamment de leadership pour que les décisions soient un bon souci. Mais donc là, je trouve là il y a une diversité et il y a un intérêt.
pas de l'organisation. Parce que là, tu arrives au niveau, je trouve, de la politique.
Et là, tu as une culture pour donner du reward en fonction de.
C'est souvent là que va aller, c'est ça que ça pose.
Ou pas. Et ça peut très bien marcher si, justement, il y a une prise de conscience par rapport à tout ça.
Et qu'on valorise cette typologie différente, avec une possibilité de faire mettre les gens au travail en fonction de styles différents, mais des styles différents qui vont pouvoir être reconnus, parce qu'au finalité, il y a un désir de poursuite de carrière, de valorisation, d'évolution pour la plupart, justement de ceux qui, en plus, pilotent les troupes. Et parfois, là, il y a un discours qui n'est pas clairement assumé au niveau de l'organisation.
La plus grande difficulté, on parlait de difficulté tout à l'heure, la plus grande difficulté dans ce problème-là, c'est de communiquer au management team quand il s'agit de distribuer les bonus. Et de justement, à ce moment-là, gérer cette distribution du bonus en reconnaissant les qualités de chacun, qui sont parfois complètement différentes. Mais la contribution du bon soldat peut mériter son bonus tout autant que celui qui va prendre l'initiative.
Un bon expert ne viendra pas un bon manager.
Mais voilà, mais on a besoin de diversité dans les équipes. On a besoin.
Et ça, ça vient vraiment à l'accompagnement de gouvernance humaine. Et moi, ce que j'observe ces dernières années, c'est qu'on va trouver de plus en plus de personnes qui ont des profils de coach dans ces rôles-là, et qui ne vont surtout pas s'appeler coach. Il faut les appeler High Level Consultant Strategy and People Governance. Est-ce que tu veux mais les techniques, on va retrouver les techniques de Jean-Luc, on va retrouver cette présence, cette qualité d'écoute, tous des outils qui font qu'au final, tu accompagnes des individus qui jouent, qui jouent leur rôle dans leur comité de direction, ou d'entreprise, ou que sais-je, mais pilotés par un externe. On ne peut pas rester dans la même famille pour un moment, avoir ce souffle de réflexion. Et les comités, les boards qui sont les plus performants aujourd'hui sont ceux qui acceptent un tiers, qui est valorisé, qui arrive avec des techniques et une attitude coach, mais peut-être avec une étiquette ronflante ou à la mode, ou, en fonction des familles, de métiers, soit la réglementation va changer, mais c'est là où tu vois le plus de
c'est un combat de
tout le monde.
J'ai encore une petite chose à dire, Jean-Luc.
Oui.
On va prendre la partie directive du management.
Il y a encore une question.
Donc, je propose qu'on aille, ou encore une question si vous voulez.
Oui, encore une question, puis moi je.
Se poursuit autour d'un verre, ça après.
Je prends une question, puis après moi je.
Je sais que je travaille dans une compagnie aérienne, et dans les compagnies aériennes, il y a une obligation légale. Tous les ans, on doit suivre le personnel navigant de cabine et de maîtrise, suit pendant 2 jours ce qu'on appelle du. Espèce de crew resource manager, ils appellent ça. C'est des mises en situation, des études de cas. Et en fait, à la lumière de ce que tu racontes, je me dis que les gens qui nous donnent ça, qui sont soit des copilotes, soit des hôtesses de l'air, légèrement formés, en fait, il ferait mieux d'être de vrais coachs. Parce qu'au final, tout le monde y va, les pieds de plomb, on n'en ressort jamais vraiment positif, sauf. On a appris des choses qu'on ne savait pas, des études de cas qui nous paraissent un petit peu intéressantes et qu'on n'aurait pas dévoilées en dehors de ce cas-là. Mais en fait, je me dis que ce serait bien mieux que ce soit donné par des gens
comme Jean-Luc par
exemple. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de sous, donc même si je
serais là pour des bio-ingénieurs qui ont des options d'Afrique.
Faire ça par des coachs extérieurs, je ne pense pas que ça va passer. Mais là, il y a quand même une idée. Quoi.
Coûte à 80 € de l'heure. 12 heures, tu es un
rappeur,
franchement.
C'est complètement. Ne laisse pas piloter l'avion.
On va arrêter là, oui, si on peut discuter.
On va aller voir,
oui. Voilà. Je voudrais. Attends, je peux juste, je terminer. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, vous les questions. Merci beaucoup d'avoir été là. Mais en tant que coach, je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Un coach ne sait jamais partir les gens comme ça. Alors, je pose une question. Je ne vais pas vous poser individuellement, mais je vous demande à réfléchir. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces entretiens? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Et une fois que vous avez mis le doigt sur une chose, ne fût-ce qu'une chose, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous allez changer demain dans votre comportement ou dans vos habitudes avec ce que vous avez appris? C'était ma requête. C'est mon PC, je dois le récupérer, il y a plein de trucs dessus.
Attends, on va te le débrancher.
Oui, je te laisse faire.